17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Merci de nous retrouver dans cette émission spéciale Grands témoins avec Albert-Claude Benamou. Merci d'être là.
Bonjour.
Vous êtes professeur de chirurgie, vice-président de l'Académie de chirurgie, expert en enseignement numérique, en francophonie, pour ne citer que quelques-unes des attributions que vous avez. Professeur Benamou. Albert-Claude Benamou,
merci.
Vous êtes vacciné ?
Restons simples.
Vous êtes vacciné ?
Je suis vacciné.
Vous savez que nous, on n'accepte personne qui n'est pas vacciné dans notre studio, vous savez ?
Absolument.
Alors, vous avez fait quoi ? Vous avez fait Pfizer, Moderna ?
J'ai fait Pfizer.
Vous avez fait quoi ?
Pfizer.
Vous avez choisi comment ?
Alors, en l'occurrence, c'est un concours de circonstances. En tant que vice-président de l'Académie de chirurgie, je me suis dit que j'avais un devoir. Quand j'ai vu la résistance un peu de la population à l'idée de se faire vacciner en prenant peut-être un risque, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec les collègues de l'Académie. On va se faire vacciner, mais en public, au travers d'une émission sur BFM TV. On a été donc filmé à la Pitié-Salpêtrière. Et j'avais proposé cette idée à Alain Fischer et à Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Ils m'ont dit, mais oui, il faut absolument le faire. Et quand on m'a vacciné, ben voilà, j'ai eu l'idée de dire, voilà, eh ben, en fait, moi, je me sens comme étant l'arrière-petit-fils de Louis Pasteur. Pasteur, quand il a fait son vaccin contre la rage, il s'est vacciné lui-même, alors qu'il n'avait pas toutes les garanties qu'on a actuellement sur le vaccin Pfizer, qui est un magnifique, une avancée de la science considérable. Et donc, voilà, ça a été le déclencheur qui fait que j'ai été parmi les premiers vaccinés avec le Pfizer en France et j'ai eu ma deuxième dose il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je suis vraiment vacciné.
On va aborder pas mal de choses dans cette émission, notamment la question sanitaire, on va revenir sur les vaccins, la problématique, parce que vous êtes enseignant, des étudiants, de la précarité, de l'enseignement à distance et tout ce qui se passe autour du monde universitaire. Et puis, bien sûr, parce que vous essaimez le monde entier, vous êtes en Afrique, en Amérique du Sud, comment ça se passe en Afrique et en Méditerranée, puisque vous êtes aussi engagé dans les solidarités méditerranéennes face à la pandémie. Absolument. Et puis, parler aussi de vous, parce que vous êtes pas n'importe qui, vous êtes né à Oran, en Algérie, vous êtes un Algérien, vous êtes issu de cette Méditerranée fraternelle dans laquelle l'Algérie compte beaucoup, et vous nous direz un peu comment vous vivez cette algérianité de France, hein, puisque je rappelle qu'il y a 10-15 millions de personnes qui sont d'une façon ou d'une autre concernées par l'Algérie, et comment ça peut se passer entre ces deux pays souverains qui se respectent et amis. Revenons un instant sur la situation sanitaire de ce Covid-19. Alors, on a entendu de tout et de rien, du complotisme, des fake news. C'est quelque chose qui a été créé en Chine, qui a été importé. Ensuite, on parle des variants. Eric Raoult vient de faire une sortie en disant « ce ne sont pas des variants, mais ce sont de nouveaux virus ». Et donc, en fait, on a le sentiment qu'on ne connaît pas grand-chose à tout ça. Les citoyens sont un peu perturbés, ne savent plus à quel sein se vouer, et y compris du point de vue de la vaccination. On nous dit que ces vaccins sont des vaccins où on s'est servi de l'ARN, donc du matériel génétique du virus, et non pas des procédés habituels
d'atténuation d'un vrai virus.
Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à ces vaccins-là? On nous parle d'effets secondaires qui peuvent surgir jusqu'à 10 ans après la vaccination. Est-ce que on doit confier la production des vaccins, comme on le fait aujourd'hui, à des laboratoires, des multinationales qui se font beaucoup d'argent? Est-ce qu'on peut pas aussi essayer de diversifier cette production lorsque les entreprises aussi sont compétentes? Donc, toutes ces choses-là, on peut peut-être les aborder ensemble. Tout d'abord, est-ce que ce virus est une création de l'homme?
Premièrement, je ne suis pas un virologue. Donc, je ne suis pas un expert scientifique de la problématique des virus. Mais par contre, je pense que les virus font partie vraiment de l'écosystème animal et humain de manière extrêmement banale. Et c'est pas le virus de la grippe, le virus, les nombreux virus. On a reconnu récemment le virus Ebola, par exemple. Et donc, on a vu que, effectivement, les risques pandémiques, ça existe, La grippe espagnole a tué des millions et des millions de personnes il y a longtemps. Et donc, on est face à une évolution du monde viral qui fait un échange entre le monde animal et le monde humain, avec des passages de barrières qui, semble-t-il, sont favorisées par certains comportements humains, l'usage de certains animaux comme le pangolin, par exemple, qui semble, et les chauves-souris, qui ont la barrière humaine a été franchie avec ce fameux coronavirus. Que ce soit un processus donc auquel l'humanité est actuellement confrontée de manière tout à fait extraordinairement violente et impressionnante en volume, en quantité, en mortalité, morbimortalité, ça c'est véritablement quelque chose qui nous agresse tous. Et c'est normal peut-être que face à cette violence qui nous est faite, de manière peut-être complètement injuste, on ait des réactions irrationnelles et qu'on fasse appel à des fantasmes, à des représentations d'un risque de quelque chose qui a été fabriqué de manière volontaire par un pays, etc., par la Chine. Ça a été, on l'a vu avec les Américains qui disaient mais c'est de la faute des Chinois. Pourquoi? Pour des tas de raisons. Et donc tout ça est complètement fantasmatique, irrationnel. Et je crois que la véritable problématique qui nous est adressée à nous, professionnels de santé, aujourd'hui en France, c'est de ne pas non plus de devenir ce que moi j'appellerais la République des médecins, où on a parlé de la République des juges, qui remplace les politiques. Non, nous avons des avis médicaux, nous avons un point de vue, des analyses scientifiques. En plus, on a vu avec le débat sur l'hydrochloroquinone lancé par, vous avez parlé de Raoult, dans quelle mesure ce débat a été induit à moi-même. À un moment, je me suis dit pourquoi l'hydroxychloroquinone, elle peut, si elle a une activité, semble-t-il démontrée, mais jusqu'à un certain point, ça a été démontré. Moi, j'attendais l'analyse scientifique de ce qu'on appelle maintenant la médecine fondée sur des preuves. On ne peut pas inventer, vous savez très bien, on ne peut pas inventer une science sans avoir de preuves expérimentales réelles.
Donc, à l'époque, tout le monde y a cru plus ou moins, parce que la nature est en horreur du vide.
On s'est dit,
on savait pas grand-chose sur le virus, on savait pas grand-chose sur le
traitement. On voulait pas ostraciser
donc,
quelqu'un qui...
ça ou autre chose, voilà. Finalement. C'est pour ça que ça a eu, l'intérêt, et notamment, même le président de la République s'est déplacé
mais
à Marseille.
Sûr. Et c'était logique.
Moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est avec, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, si on prend un peu de recul, bientôt, on en est à pratiquement 100 000 morts en France, on est à plus de 80 000. Est-ce qu'on a bien fait de confiner? Est-ce qu'on a bien fait de prendre toutes ces mesures, de prendre un espèce de, comment dire, de faire un électrochoc mondial sur l'économie? Et finalement, est-ce qu'on n'aura pas mieux fait de laisser aller et d'aller chercher ce qu'on appelle l'immunité collective, avec au passage, évidemment, on aurait eu, bien sûr, beaucoup plus de morts. Est-ce que finalement, c'était la bonne stratégie?
Alors là aussi, je me garderai d'avoir un avis tranché, définitif, parce que je n'ai pas ni l'expérience ni la compétence pour émettre des avis péremptoires sur ces sujets-là. Je pense que je réagis avec ma fonction de citoyen, de professionnel de santé, de se dire comment, face à cette violence qui nous est faite, la société a décidé de trouver les moyens les plus classiques concernant comment se protéger de ces virus. Il fallait mettre de la distance. Et donc, on retrouve la distanciation, le problème, par exemple, des masques, qui, au début, n'avaient pas été très bien compris non plus. Et donc, on a vu, effectivement, même à un moment, une espèce d'hésitation au niveau de la des politiques sur faut-il mettre des masques. On a entendu ce qui s'était passé. Et en fait, la véritable réaction, c'est celle qui a été prise, finalement, de manière assez juste, le confinement. L'isolement, on a vu que ça a eu un effet sur la vague pandémique qui était, en plus, on n'avait pas les moyens hospitaliers de faire face avec des réanimations qui ont été débordées. On l'a vu en Italie, on l'a vu pas seulement en France. En plus, c'est un processus international. La France a pris des positions relativement moyennes par rapport aux autres États dans le monde pour essayer de trouver une... Le génie français, c'est toujours d'être dans la raison, dans l'équilibre.
Donc, la France, on est bien sorti dans cette pandémie? Enfin, s'en sort bien, parce qu'on n'est pas sorti encore.
On s'en est pas sorti, mais je trouve, quand on compare réellement, j'ai entendu récemment une analyse des chiffres de mortalité, la comparative au plan international, on est à peu près au même niveau par rapport au... Il y a des variations en fonction des pays, mais pas tellement mieux que les Allemands, ou pas tellement moins bien... Par rapport aux Anglais, c'est pareil. Les Américains, alors évidemment, en fonction de, si on fait la relation, le nombre de morts par rapport à la population, on a un pourcentage. Est-ce que le Covid a été plus agressif en France qu'ailleurs? Non.
Ouais, ailleurs, et en particulier dans les zones un peu chaudes. On n'a pas les mêmes chiffres en Afrique ou dans les zones...
C'est vrai.
Et c'est lié à quoi? Parce qu'on n'a pas les mesures... on n'a pas les techniques de mesure pour savoir pour pouvoir dépister, pour savoir qui est malade et combien de morts, ou parce que le virus n'est pas actif là-bas et n'est pas...
On a toujours dans certains pays, si on casse le thermomètre, on n'a pas la vérité de la température des patients. Hein. Donc, vous cassez le thermomètre, vous n'avez pas les moyens de diagnostic. On a eu beaucoup de retard, finalement, dans beaucoup de sujets sur face à la pandémie. Et ben, qu'est-ce qu'on avait? On avait les retards sur les masques. On a eu les retards sur les tests diagnostiques. On a plus ou moins assez facilement repris la main sur la nouvelle arme absolue qui est le vaccin. Et donc, on est en train de repartir, à mon avis, le pays est en train de s'équilibrer par rapport aux autres, sur la capacité vaccinale, qui en plus dépend de la capacité industrielle et de la capacité financière pour financer le vaccin. On a vu l'effort, par exemple, considérable qui a été fait par Israël, pour que se donner les moyens de vacciner massivement la population. Et ils ont fait des efforts financiers considérables. Ils ont probablement acheté beaucoup plus cher que nous le Pfizer pour l'avoir. Donc voilà, alors je pense que il va falloir maintenant avoir une autre vision qui est celle de la solidarité face à l'ensemble des populations du monde qui sont face à ce virus.
Mais justement, on en parle dans un instant.
On va en reparler.
Ah, dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Avec Albert-Claude Benhamou, professeur de chirurgie, vice-président de l'Académie de chirurgie et expert en enseignement numérique et en francophonie. Et on parlait à l'instant de la pandémie à l'échelon international et du fait que il semblerait que le virus soit moins offensif, virulent, que en Europe ou aux États-Unis, par exemple. On explique ça comment?
Alors, là aussi, les variations géographiques des épidémies, c'est quelque chose d'extrêmement banal, extrêmement courant. Quand vous aviez le démarrage de l'épidémie à Ebola, pourquoi ça s'est localisé dans certains États et pas dans d'autres? Quelles ont été les mesures barrières qui ont été prises par les États? Je me souviens avoir discuté avec la ministre de la Santé du Sénégal, Eva-Marie Colsec, qui était à l'époque en charge face au risque, et elle avait fermé les frontières. Elle m'avait dit, voyez, chez moi, alors que c'était juste à côté, les pays voisins, ils étaient déjà très inquiets du risque de diffusion de la maladie. Mais elle avait pris toutes les mesures barrières, prise de température, etc., et elle avait fermé un peu les frontières de son pays ils ont pu résister. Donc il y a un certain nombre de facteurs géographiques, climatiques qui interviennent. Les raisons sont scientifiquement, je suis pas en mesure de bien donner des explications claires. Il faudrait peut-être demander à mon ami Yves Buisson de l'Académie de médecine, qui est un expert virologue, pour répondre à ces sujets. Il m'a, par exemple, et déjà au mois de mars, quelque chose comme ça, on avait fait une conférence sur la Covid-19. Il nous avait déjà, à l'époque, alors que personne ne parlait des variations, des variants, il m'a montré que un certain nombre d'éléments du virus avaient déjà muté et que la mutation de certains acides aminés qui comportent des qui sont dans les spicules qu'on voit au microscope électronique de ce virus, ben ces acides aminés changent. Et pourquoi est-ce que ça change? C'est parce que le virus a, c'est un génie viral qui intervient pour mieux pénétrer, mieux habiter d'autres organismes.
Il s'adapte
et mieux se développer.
Il s'adapte aux défenses qu'il a en face.
Il s'adapte aux défenses.
Donc il fabrique des éléments pour pouvoir mieux envahir le corps qu'il a en face.
Parfois en diminuant de virulence, ce qui semblait être le cas. Mais non, et finalement avec le virus, la variation britannique, il semble qu'il est plus pénétrant, mais il est finalement aussi agressif que l'autre, pas tellement plus que le précédent. Ce qui semble pas être le cas pour le virus.
En parlant comme ça, vous contribuez un peu au nuage de fumée mondial.
C'est un nuage de fumée.
Parce que, à mon avis, les gens ne doivent pas comprendre grand-chose. Donc, on a de plus en plus de virus, de plus en plus de variants. Est-ce que ça veut dire, on a de plus en plus de vaccins, on a des vaccins chinois, russes, alors est-ce que tous les vaccins se valent? On a de plus en plus de virus. Est-ce que ça veut dire, docteur Benhamou, qu'on est condamné à vivre avec ce virus, corona ou pas corona, pendant des années et des années, et que nos modes de vie vont considérablement changer? Est-ce qu'on est condamné à vivre avec ce virus, avec des masques, voilà. Réponse là-dessus.
Là encore, mon ami le professeur Antoine Flahaut de Genève, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Le bal masqué. Qu'est-ce qu'il y a, Covid, le bal masqué? Parce que le masque est toujours là. Et moi, je n'ai pas aujourd'hui la boule de cristal pour vous dire au travers du masque qu'est-ce qu'on va voir. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont intervenir dans les modifications de comportement humain. Par exemple, est-ce que nos habitudes de faire des voyages touristiques et de prendre l'avion vont pas être complètement perturbées par on va avoir peut-être changé de représentation du besoin de voyager. Faut-il prendre
d'accord, tout... mais au-delà de ça, c'est quand même que nous sommes dans une société où on ne se serre plus la main.
Oui.
Nous sommes dans une société où on ne s'embrasse plus.
Oh là là.
Nous sommes dans une société où il faut manger à 2 mètres l'un de l'autre. C'est ça dont il est question.
Alors nous qui
c'est
sommes
que
des...
la vie des gens oui. est profondément perturbée.
Vous comme moi qui êtes méditerranéen, nous sommes des affectifs. Nous avons besoin du lien, de toucher, de caresser, de s'embrasser.
Et on mange à la main dans un bol
à 8. Et moi qui ai beaucoup fait de voyages dans les pays d'Afrique subsaharienne, effectivement, on mange ensemble autour d'un plat qu'on partage ensemble. Et le partage fait véritablement
partie. C'est terrible. Évidemment,
c'est
vous
n'avez
pas la boule de cristal, mais en tant que scientifique, on est toujours dans des tendances. La tendance, elle est plutôt à dire ça va continuer.
Moi, je pense que oui, intuitivement, je pense que ça va continuer. Je n'en ai pas la preuve absolue, mais je pense que, en tous les cas, on va aller vers des modes un peu asiatiques. Le fait que nos amis coréens, thaïlandais, etc., portaient des masques avant la pandémie. Parce qu'ils avaient peur de la pollution atmosphérique. Bon, donc peut-être que finalement, on est tous un peu dans cette situation. Nous aussi, on est victimes de la pollution atmosphérique. Et donc, il va falloir qu'on continue ces mesures de prévention.
Mesures de prévention qui induisent le port de masque. Qu'on pourrait considérer comme étant une espèce de déshumanisation dans la mesure où le lien humain n'est plus comme avant, donc il y a une distance. Ces liens touchent, enfin, en particulier les jeunes, la jeunesse,
oui.
Qui sont, bon, on l'a bien vu, qui bravent les interdits pour essayer de se regrouper pour danser, pour faire la fête, pour manger, etc. Et notamment les jeunes étudiants et les universitaires qui vivent une situation catastrophique. Ils sont dans une précarité incroyable, à la fois du point de vue de leur quotidien, on les voit dans les restaurants du cœur et dans l'enseignement. Ils ne voient plus leurs professeurs. Vous qui êtes professeur de numérique et d'enseignement à distance, comment vous gérez ça? Comment vous analysez ça?
Alors pour moi, c'est vraiment un sujet. Je trouve que la souffrance que vivent actuellement, je pense, la génération Y, ce qu'on a parlé de la génération, moi j'appellerais la génération Covid. On est dans une génération qui est vraiment de jeunes qui ont, sont en souffrance à de nombreux niveaux, sur leur mode de vie, etc., sur leur avenir professionnel. Même ceux qui ont des diplômes, qui sont sortis avant la Covid avec des masters très brillants, etc., ils ne trouvent pas de travail. Ils ne sont plus embauchés. C'est vraiment... ça va à l'encontre. Alors, quand on entend un jeune, une solution, moi, j'entends plutôt un jeune, un problème. Et je trouve que les solutions...
Alors, il y a des idées qui fusent, comme donner une espèce de minimum garantie aux jeunes, aux étudiants, etc.
Il faut véritablement des mesures très, très fortes qui ne sont pas du tout perçues actuellement par la population jeune. Je pense qu'il faut véritablement, au-delà du chèque psycho dont on a entendu parler pour aider les jeunes qui sont déprimés, etc., je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, pour des aides alimentaires véritables, pour des aides au logement, pour des aides à la reprise du travail, pour des aides donc à la poursuite d'études. Quand on voit que des jeunes ont du mal à trouver des stages, on leur dit, à l'université, alors les collègues universitaires s'insurgent contre l'islamo-gauchisme, etc., qui s'occupe des jeunes, qui s'occupe de leur véritable sujet, qui est quand on refuse une diplomation à un jeune sous prétexte qu'il ne trouve pas de stage, on lui dit, non, vous n'avez pas de stage, je passerai pas. Ah ben oui, mais c'est pas normal, il n'y a pas de stage. Alors pourquoi l'instance universitaire ne trouve pas les moyens de dire, changeons les règles, modifions le processus, donnons 2 ans pour que... Après la Covid, ces jeunes puissent revalider leur passage au travers d'une entreprise ou d'un stage professionnel. Je crois qu'il y a, des mesures que les jeunes attendent et que malheureusement, pour l'instant, j'espère que nos gouvernements vont trouver les bonnes solutions.
Même dans l'enseignement à distance, est-ce que les diplômes auront la même valeur? Est-ce que
Oui.
On voit que là, les examens. Il y a toute une. On n'est pas sûr de passer les examens au même moment, de la même façon, avec les mêmes notations. Donc tout ça, c'est en train de.
Je dois très honnêtement et sans l'esprit de comment dire partisan, je dois rendre hommage à Jean-Michel Blanquer, qui a contre peut-être vents et marées, parce que ça n'a pas dû être évident pour lui, de maintenir le fait que les jeunes, qu'on doit maintenir au maximum la possibilité pour les enfants d'être à l'école. Je pense que ça, c'est fondamental. En développant, évidemment, l'enseignement numérique également, parce que l'enseignement à distance, c'est vraiment une avancée. Mais l'enseignement à distance...
Enfin, les enfants à l'école, c'est quasiment une obligation, parce que si les enfants sont à la maison, ça plombe l'économie.
Les parents ne peuvent pas travailler. Donc il y avait d'autres éléments politiques pour prendre ce type de décision, mais il a été très fort pour le maintenir contre vents et marées, avec quand même beaucoup de critiques.
Alors, concernant les étudiants, est-ce qu'on va pas vers... un affaiblissement du monde universitaire, de la matière grise, de la recherche, etc.
Je suis un éternel
optimiste. Le télétravail, le numérique, est-ce que ça va pallier à tout ça?
Je vais vous dire, moi je suis un éternel optimiste et je pense que ce danger potentiel, il faut le combattre, il faut prendre des mesures pour agir contre cette évolution, cette dépression, parce que le danger, c'est un peu la déprime chez les jeunes. Qui sont démotivés, ne voient pas le sens de vers quoi on veut aller. Ils ont besoin de recréer de nouvelles valeurs pour qu'ils vont justifier leur engagement. On a besoin de l'engagement des jeunes. Et ça, je dis ça face à mon petit-fils qui va peut-être co-réaliser cette émission aujourd'hui. Eh bien, il faut qu'ils comprennent que ils ont une place essentielle pour faire muter le monde dans lequel on vit. Et ça, j'y crois. Et je pense qu'ils vont trouver on n'invente pas les choses s'inventent au fur et à mesure. Face à l'adversité, on trouve les moyens et on réagit. Ça a toujours été, d'ailleurs, je crois, le génie de la France. C'est de trouver.
Ça, c'est le médecin et le scientifique qui parlent aussi. C'est-à-dire que le corps trouve en permanence les moyens de résistance et de fabriquer ses propres défenses.
Et on trouve la résilience et on trouve les moyens de, et on invente. Et heureusement, la capacité d'invention est toujours là. En tant que chirurgien, je peux vous dire que entre le moment où j'ai été formé il y a un certain nombre d'années, malheureusement, je suis plus totalement jeune, loin de là, je suis jeune au niveau des neurones. Je crois que c'est ça qui est important. Et je crois que tant qu'on a cette énergie à vouloir que ça change, à vouloir avoir un regard différencié, à ne pas se comporter comme des moutons de Panurge, à dire « Ah, la science, à un moment, c'était ça, donc on continue à faire ça ». Ce conservatisme-là, c'est la mort assurée. C'est ce qu'il faut, c'est la nécessité d'inventer, de modifier, de savoir se réinventer soi-même.
Alors, voilà. Insubordination, indignation, innovation, c'est votre les critères d'intelligence de l'être humain. On se retrouve dans un instant pour dans cette émission passionnante des grands témoins.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Albert-Claude Benhamou, professeur de chirurgie. On parlait à l'instant donc de cette pandémie qui est-ce qu'on va vivre avec, pas vivre avec, etc. Les pays du Sud. Et je sais que vous êtes impliqué, notamment en Méditerranée et en Afrique. Est-ce qu'il y a une nécessaire solidarité des pays européens avec les pays africains en Méditerranée? Comment ça doit se passer? Est-ce que les vaccins doivent être gratuits? Est-ce qu'on doit livrer de l'oxygène, des respirateurs? Est-ce que les équipes doivent partir? Quand on voit la difficulté que les Européens, les Italiens, les Allemands, etc. Comment cette solidarité peut s'exercer?
Alors, pour moi, cette solidarité doit être presque naturelle, mais organisée. Parce que la solidarité, si elle vient simplement de quelques énergies individuelles, elle est insuffisante.
Parce qu'on voit qu'il manque des antibiotiques, il manque des anticoagulants, il manque des respirateurs, on le voit. Bon, même s'il y a une espèce de voilà, les gens sont un peu pudiques, les autorités de ces pays-là ont parfois du mal à dire qu'ils ont besoin. Donc, mais voilà, malheureusement, il y a un manque de moyens.
Il y a un manque de moyens. Il y a, je pense d'abord, un rôle des instances internationales du type OMS qui devrait véritablement militer et faire tout ce qu'il faut, et puis avec l'appui après des gouvernements de l'ONU et de du Parlement européen, etc., pour que l'accès aux vaccins soit gratuit pour tous. Ça, c'est pareil. Bon, en France, on a organisé l'accès aux vaccins gratuit. C'est le cas dans beaucoup de pays européens.
En fait, on pourrait avoir quelque chose d'international.
Oui.
Lorsqu'il y a une pandémie de ce type,
c'est une occasion,
à l'échelon mondial,
une occasion unique.
Tout vaccin devrait être gratuit.
Absolument.
Ça devrait être quelque chose de...
Pour moi, c'est comme une évidence, malheureusement, c'est la preuve par neuf, on l'a pas encore. Ça veut dire que c'est le rôle des politiques d'appuyer, mais considérablement, pour faire que les efforts qu'ils font pour leur propre pays deviennent des efforts... Parce que le virus n'a pas de frontières. Si on a vacciné nos populations, on va avoir des cohortes de populations qui vont être décimées dans les pays où le vaccin n'aura pas été mis en œuvre. Donc peut-être qu'une des fonctions... On dit la France, la Sanofi n'ont pas réussi à mettre au point leur propre vaccin. Peut-être un des rôles peut-être de l'Institut Pasteur dans sa grande tradition depuis la fin du 19e siècle, c'est peut-être d'être là à l'avant-garde pour que le vaccin, quelle que soit l'origine du vaccin, qu'il soit américain, etc., devienne quelque chose qui soit porté par l'ensemble des Instituts Pasteur du monde. Et par l'ensemble des pays du monde.
Et de ce point de vue-là, la médecine française, la chirurgie française, je sais à laquelle vous êtes attaché, parce que vous êtes entre autres membre de la Commission nationale française pour l'UNESCO, vous préparez un grand forum autour de la médecine et de l'intelligence chirurgicale et scientifique française.
Oui.
Donc à travers cette francophonie, vous souhaitez qu'il y ait une rencontre, on aura l'occasion de vous réinviter là-dessus, mais de tous les scientifiques internationaux, africains, asiatiques, etc.
Européens.
Et vous pensez que cette solidarité de scientifiques peut être une arme internationale. De ce point de vue-là, les choses vont changer aussi.
En tous les cas, je l'espère, et on va faire le maximum pour faire la démonstration que peut-être le génie français, et le génie de la francophonie plutôt, qui est celui de...
Parce que la francophonie, c'est pas que la France.
Non. parce que je crois même
on l'oublie trop souvent
et que le concept francophone est plutôt né au Sénégal, est plutôt né à l'idée de les valeurs de la francophonie. Ça a été plutôt proposé par l'Afrique subsaharienne.
Voilà, on est dans ce qu'on appelle la multilatéralité.
Et la multilatéralité, voire même le multilinguisme. Parce que ce sont nos valeurs.
La francophonie, c'est le multilinguisme.
C'est le multilinguisme. Et c'est l'enrichissement même des langages par les croisements culturels. Et les croisements d'où nous venons, chacun dans nos pays, nous avons une base sur laquelle on s'est construit.
La francophonie, c'est au-delà de la langue,
c'est au-delà
des valeurs.
Absolument. Et ce sont ces valeurs-là qu'on peut faire également vivre dans les disciplines de la santé, mais aussi de l'éducation et de l'aide aux populations et de l'aide à la lutte contre le dérèglement climatique et voilà, tous ces grands sujets.
Et en plus, ce sont pas des valeurs hégémoniques, ce sont pas des valeurs qui s'imposent, ce sont des valeurs qui sont là aussi en écho aux valeurs des pays en place, africaines ou asiatiques, etc. C'est comment ces valeurs-là peuvent se répondre les unes les autres.
Et s'enrichir.
C'est pas des choses qu'on impose.
Et nous qui sommes des deux rives de la Méditerranée, nous avons aussi, au travers de la francophonie et de la Méditerranée, et notre tradition méditerranéenne, à avoir justement quelque chose qui nous a enrichis. La Méditerranée, c'est la base des valeurs sur lesquels...
Ah, et vous, cette Méditerranée, vous la connaissez bien, parce que vous êtes né à Oran.
Je suis né à Oran. Je suis né, alors, avec...
Vous avez vécu à Oran? Vous avez étudié à Oran?
J'ai étudié à Oran.
Donc, vous avez Oran dans vos veines, dans vos artères, dans vos ongles, dans vos cheveux. Vous êtes algérien.
Je suis algérien, et je partage cette idée que mes amis algériens, quelle que soit leur religion, leur pratique de la laïcité ou de la religion, sont des frères, sont des amis. Et c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti avec mon appartenance en même temps à la France, parce que dans ma famille, on a été élevé dans cet esprit. Une de mes grandes sœurs...
Dans la langue française.
Dans la langue française. Une de mes grandes sœurs qui est née pendant la guerre, un peu après, avant moi, s'appelle France Aimée. France Aimée. Alors que Benamou, France Aimée. Vous voyez le rapprochement. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'attachement à, certes, à la terre dans laquelle nous avons vécu, mais également à cette...
Vous êtes algérien d'origine d'une terre française, comme d'autres sont algériens d'origine turque, comme d'autres sont algériens d'origine asiatique,
exactement.
Etc. ou africaine.
Exactement.
Voilà. Donc
et ça, j'en suis fier. Ah. Et j'en suis et je suis comme Benjamin Stora, comme d'autres amis qui sont.
Ça veut dire que les hommes, la culture, c'est au-dessus de tout.
Exactement.
C'est ce qui lie les hommes entre eux.
Et le respect des autres et le respect des représentations. Des autres et de leur pratique ou non de la religion ou de la laïcité et des valeurs humaines sur lesquelles nous espérons... Alors, pour répondre à l'idée de la chirurgie, parce que c'est mon métier, hein, on va faire les 24 heures de la chirurgie francophone dans le monde. Et moi, j'ai un exemple formidable. Qu'est-ce que ça veut dire dans le réel? Un collègue africain, congolais, de la République démocratique du Congo, chirurgien, formé à Angers, gynéco-obstétricien. Il vit dans son pays, il pratique la chirurgie dans son pays. Ce monsieur, Denis Mukwege, vous le connaissez comme moi, c'est le prix Nobel de la paix. Pourquoi il a été prix Nobel de la paix? Parce qu'il défend, il soigne les femmes victimes des violences sexuelles qui leur sont faites à cause de la guerre du Kivu. Et ces femmes, ces enfants, ces petites filles sont violées à 7, 8, 9, 10 ans. On les viole, on les traumatise. Le professeur Mukwege, prix Nobel de la paix, le seul chirurgien d'aujourd'hui vivant, prix Nobel. Eh bien, c'est un ami de la France, formé en France, formé dans la francophonie, dans l'esprit des valeurs. Et nous, voilà, nous voulons lui rendre hommage, peut-être pendant ces 24 heures, de la chirurgie francophone dans le monde qu'on va organiser pour le mois de novembre avec l'aide du CESE, avec l'aide du ministère de la francophonie, avec l'aide de l'agence universitaire de la francophonie que j'espère avoir avec nous, etc. On va montrer que dans les périodes difficiles que nous vivons, où il y a encore des guerres, où il y a encore des pandémies, presque comme au Moyen-Âge, eh bien, nous vivons encore avec des capacités de lutter contre ça, avec des moyen de résilience où l'éducation des enfants Et à mon avis, le seul levier fondamental sur lequel vraiment nous devons faire tous nos efforts. C'est pour ça que il faudrait éviter qu'avec la crise de la pandémie, il y ait une espèce de combat des générations, parce qu'on a fait tout ce qu'on a fait pour protéger la vie des personnes âgées qui meurent du Covid, et en même temps, il ne faut pas qu'on sacrifie nos jeunes. Et il faut montrer, et c'est pour ça que le gros effort à venir, c'est comment faire remonter la jeunesse dans le train du progrès et de la solidarité.
Alors, on a commencé cette émission par une espèce d'abord de la pandémie qui a asséché les relations, fait distendre les gens entre eux, éloigner les gens entre eux. Pardon. Et dans cette émission, Albert-Claude Benamou, vous ne faites que parler de rapprochement, de liens, de passerelles, de dialogue, de contact. Vous êtes un combattant.
Absolument. Je suis un combat. Le véritable. On parle beaucoup aujourd'hui de la disruption. Qu'est-ce qui change, qui casse quelque chose dans les habitudes humaines, industrielles, c'est-à-dire la disruption. Vous inventez l'iPhone, vous faites une disruption avec le téléphone filaire. Voilà. Eh bien, la disruption humaine dont on a besoin, contrairement à ce que ça peut être comme présenté de manière paradoxale, c'est que le lien humain, malgré le numérique ou à travers du numérique, doit absolument être la chose fondamentale. Quand vous faites de l'enseignement à distance, vous devez recréer du lien humain. Et parce que, par exemple, la personnalisation de l'enseignement, c'est l'objectif de tout enseignant. Quand un jeune veut apprendre, il peut avoir des difficultés, il va lutter, il va pas comprendre. Mais le seul moyen de le sortir de la difficulté, c'est de lui dire « Coco, je vais t'aider ». Et ça peut être une aide qui peut venir aussi bien d'ailleurs d'un adulte, d'un enseignant, mais ça peut être aussi celle d'un autre élève. Le co-enseignement par les étudiants, leur engagement auprès de intragénérationnels pour devenir eux-mêmes des porteurs de la science et du savoir et de la compréhension, ben c'est ça le message.
En tout cas, merci Albert-Claude Benamou. Vous venez de nous dire que finalement, l'intelligence humaine sera toujours supérieure à l'intelligence artificielle.
Absolument.
Et que ça vaut le coup, que la vie vaut le coup d'être vécue et qu'il faut se battre et que cette vie mérite qu'on la vive.
Pardon, juste un mot, parce que intelligence artificielle, ça vient de l'humain. L'IA, c'est nous. Et nous avons à bien comprendre, à nous servir de l'IA. Parce que l'IA va nous être une aide. Le numérique est une aide, est une augmentation de nos capacités. Mais c'est nous qui l'avons inventé. C'est l'homme qui est derrière.
Donc l'homme avant tout.
L'homme avant tout. Et l'avenir de l'homme, c'est l'homme. Et c'est pas la machine.
Merci Albert-Claude Benamou. À très bientôt. C'était un plaisir.
Merci. C'était également un plaisir. Merci beaucoup de cet accueil. Merci. Formidable. Merci beaucoup.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.